Radio Kapi. La question de la taxe RAM, 10 jours de consultation populaire lancée depuis lundi dernier à Kinshasa et à travers tous les pays. Première étape, la commune d'Nkisesso, 17 quartiers consultés. La population n'est au courant de rien en ce qui concerne cette taxe. Elle ne fait que subir des coupes de crédits en désordre. La société civile du Sud Kivu exige que la ville d'Uvira soit déclarée ville sinistrée et soumise à son désenclavement total. Cette ville est en proie à une situation humanitaire catastrophique, déclare la société civile. Enfin, nous recevons dans cette édition du journal Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Il s'exprime sur les bavures policières de plus en plus enregistrées ces derniers jours à travers le pays. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. À Kinshasa, les consultations de 10 jours sur la taxe RAM ont bel et bien débuté lundi dernier sur toute l'étendue du territoire national. Et aujourd'hui, les programmes multisectoriels de vulgarisation et sensibilisation, ainsi que le fonds de soutien aux victimes des injustices sociales, se sont rendus dans la commune d'Nkisesso, où ils ont pu consulter 17 quartiers. Selon les organisateurs, la tranche de la population consultée n'était pas informée de la dite taxe. Ludok Kalengai, coordonnateur national du programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation, l'a dit au micro de Jocelyn Poy.
Nous avons lancé nos consultations populaires sur l'affaire RAM sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons eu aussi l'avis de la population. En fait, nous devons savoir que la situation RAM souffrait d'abord d'un très grand problème de communication. La population n'avait d'abord pas d'informations sur RAM. Ils sont étonnés d'entendre les projets et les objectifs de RAM, c'est qu'il y avait un très grand problème de sensibilisation, un très grand problème d'information. Il se disait que voilà, il y a des réseaux sociaux qui coupent des crédits en désordre et pourtant, on leur a expliqué qu'il y a un service de la RTPC qu'on appelle RAM, le registre d'appareils mobiles. Donc nous pouvons déjà comprendre qu'il y a eu un très grand problème de communication, mais les consultations vont durer 10 jours jusqu'au 18 et ça sera le 20 que nous allons donner notre rapport final sur notre position et sur qui sera la position de la population, bien sûr. Et nous allons remettre ce rapport à qui de droit, les autorités de la République démocratique du Congo, pour que l'on puisse trouver une solution.
Et puis, polémique autour des frais d'investissement alloués aux provinces, dans le Kwilu, plusieurs animateurs des entités territoriales décentralisées et TD se plaignent de la non-rétrocession des cotes-parts dues à leurs entités respectives. Ils sollicitent l'implication du chef de l'État pour obtenir leurs droits afin de concrétiser la vision du chef de l'État telle que promis lors du Forum national de la décentralisation sur l'évaluation du processus de mise en œuvre de la décentralisation. Pour sa part, Willy Tchundala, gouverneur du Kwilu, précise que les ETD ne sont pas concernés par ces frais. Par contre, doivent justifier au ministère de l'Intérieur les frais de rétrocession qu'elles reçoivent. Plus d'explications avec Irène Mboma.
Pour certains animateurs des entités territoriales décentralisées, ETD en sigle dans la province du Kwilu, les ETD des autres provinces ont déjà reçu leur quote-part des frais d'investissement alloués aux provinces pour réaliser des travaux en faveur de la population et concrétiser la vision du chef de l'État. Curieusement, celles du Kwilu ne sont pas encore dotées de ces frais. Ils trouvent cela injuste et en appellent à l'implication du chef de l'État. C'est également ce que pense Ferdinand Tarita, point focal de la nouvelle société civile du Kwilu, qui appelle les dirigeants à la transparence.
Si le gouvernement central a disponibilisé les fonds, on ne doit pas restreindre la province de Kwilu. Si le Kwilu a eu quelque chose, le Kwilu doit se rabattre vers les ETD pour leur donner aussi les moyens de financement pour réaliser les travaux. Je dois demander à ceux qui nous dirigent d'être transparents.
À cette question, Willy Itunda, la gouverneure du Kwilu, réagit comme suit.
Nous justifions les frais d'investissement que nous avons reçus et ils justifient les frais de rétrocession qu'ils reçoivent. Les ETD ne sont pas concernés par les frais d'investissement. Des investissements destiné uniquement pour le gouvernement provincial pour investir dans la province.
Pour Willy Itundala, ces chefs des ETD sont dans la confusion. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle, le Conseil national de la société civile dénonce avec un profond désarroi la situation de mauvais traitement que subissent les Congolais dans des sites d'exploitation minière au sud Kivu. Dans une déclaration parvenue mardi à Radio Okapi, le CNSC exige du gouvernement d'ouvrir une enquête judiciaire contre les propriétaires des concessions minières de sujets étrangers qui exploiteraient illégalement les minières de la province du Sud Kivu. Des détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Dans sa déclaration, le Conseil national de la société civile dénonce le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC, de même que le contrôle sauvage et régulier des concessions minières par des sujets étrangers. Pour ce conseil, des personnes de mauvaise foi essaient de faire porter le chapeau à quelques autorités de la République qui pourtant, au vu des documents constitutifs des entreprises concernées, ne sont pas impliquées dans cette exploitation honteuse et illicite des ressources naturelles. Le Conseil national de la société civile dénonce également des mensonges propagés dans les médias dans les soucis de déstabiliser les institutions de la République, raison pour laquelle ce conseil recommande au gouvernement d'appliquer les dispositions pertinentes du code minier pour mettre fin à l'anarchie qui règne dans ce secteur qui, du reste, ne contribue pas au développement des communautés locales et de la nation. Aussi, le Conseil national de la société civile demande au gouvernement de veiller au respect strict des lois régissant le secteur minier pour le bénéfice du peuple congolais.
Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, les acteurs de la société civile du Sud Kivu exigent que la ville d'Uvira, située à 120 km de Bukavu, soit déclarée ville sinistrée et soumise à son désenclavement total. C'est là au vu de la situation humanitaire catastrophique que connaît la population de la deuxième ville de la province. Une fois Uvira déclarée ville sinistrée, cela pourra alors mobiliser plus de ressources pour assister les personnes vulnérables et reconstruire les infrastructures. Ceci est contenu dans une déclaration signée par les leaders religieux et autres acteurs de la société civile du Sud Kivu. Un extrait de cette déclaration lu par le président de la société civile du Sud Kivu, Adrien Zawadi, dans ses propos recueillis par Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Le territoire d'Uvira se trouve parmi les 9 villes socio-économiques principales de la RDC. Malheureusement, cette ville se trouve maintenant en proie d'une menace imminente d'un enclavement sérieux dû essentiellement aux différents phénomènes naturels, environnementaux et infrastructurels. La ville d'Uvira, avec une vue panoramique sur son lac, engrange une forte concentration de la population vivant essentiellement de l'agriculture et de la pêche. Toutes les voies d'accès et de sortie de cette ville sont malheureusement dans un état de délabrement indescriptible. Les transactions commerciales connaissent un ralentissement faute des infrastructures routières pouvant approvisionner la population. Elle est desservie par la route nationale RN5, route actuellement en délabrement très avancé. Au vu de ce qui précède, il s'avère impérieux que la ville d'Uvira soit désenclavée le plus tôt possible et que le gouvernement central déclare la ville d'Uvira ville sinistrée et que des mesures urgentes soient prises pour pallier à cette situation infrastructurelle.
Et puis le tribunal militaire de garnison de Beni Butembo juge depuis 5 jours des militaires congolais et des civils en audience foraine à Kantine, une localité du territoire de Beni située à une 40 kilomètres au sud-ouest de la ville. Ils sont notamment poursuivis pour viol d'enfants. Les victimes sont âgées de 14 et 15 ans. Suivez les explications de Martial Papimoukiba.
Au cours de ces audiences, 11 militaires comparaissent devant les juges du tribunal militaire des garnisons de Beni Butembo. Il s'agit des éléments de la 32e brigade des réactions rapides et du 21-02e régiment des FRDC poursuivis pour viol d'enfants à Mangina, Mabalako et Kantine, des localités du territoire de Beni. 4 civils poursuivis pour la même infraction sont également jugés. Une dizaine de victimes, dont l'âge varie entre 14 et 15 ans, seront présentées lors des audiences. Selon des sources judiciaires, certaines d'entre elles sont enceintes. L'hôpital Île Africa de Goma apporte un appui financier à ces audiences, ce qui a rendu possible la présence des victimes à ces audiences et leur accompagnement juridique. Ces audiences foraines qui prennent fin samedi avec les prononcés des jugements sont organisées dans le cadre de la répression des infractions de viol en cette période de l'état de siège au Nord Kivu. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Kapi.
On reste dans la province du Nord Kivu. C'est la politique tolérance zéro contre les violences sexuelles impliquant les militaires pendant l'état de siège. Ce thème est au centre d'une sensibilisation de 2 jours à partir d'hier mardi à Goma en faveur d'une 50aine de commandants d'unités FRDC et magistrats militaires. C'est dans un séminaire organisé par la commission des FRDC de mise en œuvre du plan d'action pour la lutte contre les violences sexuelles en collaboration avec le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon le secrétaire de cette commission, la La sensibilisation cadre avec la politique nationale lancée le 19 juin 2021 en Ituri par le président de la République. Colonel Jean-Daniel Batabombi au micro de Bernardin Nyangui.
Nous avions été instruits par son excellence Monsieur le ministre de la Défense nationale des anciens combattants afin de venir sur le terrain organiser des activités de sensibilisation des commandants de grandes unités dans le cadre de cette campagne. Parce que ce sont les commandants qui sont responsables de la gestion quotidienne des troupes. Et si les commandants sont de plus en plus responsabilisés sur cette question, certainement il y aura un contrôle effectif des mouvements des troupes et il y aura la prévention des violences sexuelles. À ce moment-là, le commandant est à mesure de sanctionner sur le plan disciplinaire tout présumé auteur de violences sexuelles et le cas échéant, le déférer devant les juridictions militaires pour que le présumé auteur réponde de ses actes. Et la haute hiérarchie des forces armées a estimé que la collaboration entre le commandement militaire et la justice militaire constitue un atout pour donner des réponses holistiques aux questions de la lutte contre les violences.
Signalons qu'à la fin de ce séminaire, tous les officiers bénéficiaires vont signer des actes d'engagement de sanctionner tout acte de violence sexuelle commis par les militaires sous leur commandement. Dans la province du Maniema, 50 000 à 100 000 francs congolais est l'amende qui sera infligée aux montards et familles qui vont troubler l'ordre public lors de la cérémonie de proclamation des résultats de fin d'études primaires et maternelles prévues ce mercredi 8 septembre. La décision est du maire de la ville pour prévenir les accidents de circulation. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi hier mardi, Ongala Lusekelovi dit avoir informé les services de l'ordre à cette fin. À chaque parent de bien instruire ses enfants, dit-il. Ongala Lusekelovi au micro de Florence Kizalunga.
Tout d'abord, j'ai lancé des communiqués par rapport à ça. Et c'est lui qui fera la sourde oreille, qui s'apprendra lui-même. Puisque c'est nous les parents qui sommes d'abord les premiers responsables. Nous devons prodiguer des sages conseils à nos enfants. Après la proclamation, vous rentrez chez vous à la maison pour aller fêter. Vous ne pouvez pas fêter dans des milieux publics comme ça, sur la route avec des panneaux de ceci. Non, c'est lui qui osera faire ça. En tout cas, l'État se prendra à ces gens-là. La police est au courant et tous les services de sécurité, ils sont tous au courant. La police est là pour ça. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Si vous voulez faire une fête, allez chez vous à la maison. Plusieurs risques. Il y aura des accidents, il y aura des morts, des blessés et tout ça, ça tombera toujours à la tête. Oh, nous allons voir les maires de la ville. Oh, nous allons voir les gouverneurs. Est-ce que c'est le gouverneur ou le maire de la ville qui vous a dit d'aller fêter dans des artères principales? Ils vont payer des amendes. Si c'est un motard, il paye 100 000 et on confisque la moto. Si vous payez, on vous retourne votre moto. Mais ce sont les parents de 50 à 100 000.
Et puis, comment éviter de retomber dans des cycles de contestation des résultats au moment des élections? C'est pour répondre à des questions comme cela que le réseau Babel International organise à partir de ce mercredi 8 au 18 septembre prochain dans la salle de conférence de l'Institut de la Gombe ici à Kinshasa une session spéciale de formation en droit et contentieux électoral. Animée par des éminents spécialistes du domaine, ce rendez-vous qui se tient en marge de la tenue des élections en 2023 en RDC, s'adresse particulièrement aux techniciens ou praticiens du droit ainsi qu'aux acteurs politiques. Alidor Mouyaya, coordonnateur du réseau Babel International, explique le bien fondé de ce rendez-vous. Il a été joint par Pélé Kipelamondo.
Cette activité a pour objectif d'équiper les participants de notions élémentaires et même spécifiques sur les enjeux électoraux. Car vous savez, la source des contestations, de la déstabilisation de notre pays et entre autres les élections qui sont souvent contestées. Alors depuis le mois de juillet, le 4 précisément, le président a publié une nouvelle loi sur la CENI et il est important de s'en approprier, de connaître les contours afin d'éviter des contestations inutiles. Voilà pourquoi nous invitons plus un, déjà à la tenue de la Gombe. À 10h nous commençons pour que nous prenions en main notre destinée.
Actualité internationale.
Un premier groupe de plusieurs dizaines d'opposants au président guinéen Déchi Alpha Condé, détenu à la prison civile de Conakry, a été libéré hier en début de soirée.
Parmi eux, Abdoulaye Ba de l'UFDG, Étienne Soropogui, Valeur Commune, Ismaël Kondé, maire adjoint de Matam, Kéamou Bogolan Abba, porte-parole de l'ANAD, alliance d'une cinquantaine de partis politiques qui soutiennent l'opposant Selou Dailene Diallo, ou encore Fonike Mengue, sorti lui de l'hôpital.
L'invité.
Notre invité, mesdames et messieurs, dans cette édition du journal est Emmanuel Kabengele. Il est coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice. Il s'exprime sur les bavures policières qui sont de plus en plus enregistrées ces derniers temps à travers le pays. Emmanuel Kabengele, coordonnateur national du réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice, est interrogé par Alain Irungo. Suivez.
Emmanuel Kabengele, bonjour.
Bonjour.
De plus en plus, des bavures policières sont enregistrées à travers le pays. Le dernier cas en date est celui de ce policier qui aurait tiré par mégarde sur son supérieur ici à Kinshasa. Quelle en est la cause, selon vous?
À notre niveau, la raison réelle est plus à situer au faible niveau de mise en œuvre de la réforme de la police. Vous savez, la réforme de la police insinue un nouvel état d'esprit de la police qui se doit de respecter le fondamental de la personne humaine. Et la dignité d'une personne est un droit le plus sacré. Vous avez fait appel aux auteurs des différentes bavures qui sont dans la police. Et je crois que ces auteurs n'ont pas leur raison d'être dans la police qui est censée être pour nous une police de proximité, proche de la population, à l'écoute de la population, en partenariat avec la population, et non, comme je l'ai toujours dit, une police de promiscuité qui pollue l'environnement sécuritaire. Et à mon sens, le pari attendu de la réforme de la police, c'est la transformation réelle de l'homme policier pour qu'il arrive à rassurer davantage la population de par la qualité de ses prestations de services de sécurité. Je me dis que au niveau de management de la police nationale, l'on se doit davantage d'être regardant et même très sélectif en amont avant de pouvoir faire un recrutement dans la police.
À ce jour, selon vous, où est-ce qu'on en est réellement avec cette réforme de la police?
Bon, à ce jour, je peux simplement vous dire que nous sommes pratiquement dans ce que je considère comme une sorte de liturgie de la parole. Nous avons suffisamment de données en termes de plan. Il existe un plan d'action quinquennal mis à jour de la réforme de la police nationale congolaise. Et c'est un plan qui retrace un certain nombre d'actions qui peuvent faire de notre police réellement professionnelle de par la qualité de ses interventions et de ses prestations. Mais il faut également vous avouer que le moyen ne sont pas mis à la disposition de la police pour pouvoir mettre en œuvre cette réforme selon le prescrit de ce plan. Donc ce qui fait effectivement défaut, c'est la mise en œuvre de ce plan. Nous nous contentons de lire les belles actions, les belles activités prévues dans ce plan, mais la mise en œuvre continue à faire défaut.
Quelles sont selon vous les caractéristiques d'une police professionnelle?
Pour nous, les caractéristiques d'une police professionnelle se retrouvent déjà dans la doctrine de base de la police qu'on appelle la police de proximité. C'est une police proche de la population, une police à l'écoute de la population, une police en interaction avec la population dans le cadre de la recherche des solutions aux problèmes de sécurité. C'est pas vraiment une police qui est vraiment ennemie ou adversaire de la population. C'est une police qui rassure. Vous savez, pour nous, l'indice de rassurance, c'est plus la nuit. Si on arrive à un moment où, à 22 heures, vous croisez un policier, vous frottez les mains pour dire « Ok, voilà, au moins quelqu'un qui me sécurise », là, on peut dire que le pari est gagné. Mais imaginez-vous aller dans des zones reculées à 22 heures si vous trouvez le policier. Bon, le simple réflexe, c'est trouver par où fuir, parce que pour vous, vous vous dites que si vous le croisez, c'est votre téléphone qui s'envole ou c'est ce que vous avez en poche de s'envoler. Donc voilà en fait un peu de question d'inquiétude réelle qui touche pratiquement à la discipline du policier lui-même.
Quelles recommandations pouvez-vous formuler aux autorités qui vous suivent en ce moment pour que les choses s'améliorent dans ces secteurs?
La meilleure recommandation, c'est d'abord le moyen, parce que vous savez que la réforme place avant tout l'homme au centre, l'homme policier et également aussi l'homme civil. Et déjà, il y a une sorte de boussole qui indique même de manière budgétaire ce qu'il convient de faire. Donc, nous pensons que le gouvernement serait œuvre utile en proposant dans la loi budgétaire prochaine un budget conséquent pour la mise en œuvre du processus de réforme. Les parlements feraient œuvre utile en mettant l'accent sur ces questions budgétaires et nous, société civile, on va vraiment faire le suivi de la mise en œuvre effectivement du budget qui sera affecté pour pouvoir voir si réellement ce budget pourra participer au changement de comportement de police.
Emmanuel Kabengele, merci.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre particulière attention.